Y a-t-il des questions des...
Est-ce que tu pourrais nous...
La situation en Afrique du Sud est actuelle.
La situation en Afrique du Sud, bon, ce qui se passe, c'est comment l'industrie pharmaceutique utilise une situation politique grave pour empêcher l'accès au traitement. Le président Mbeki, président de la République sud-africaine, qui est dirigeant de l'ANC, il faut savoir que l'ANC n'a jamais voulu prendre en compte le VIH. Il faut être clair, le VIH touche principalement en Afrique du Sud les gens. Touche la classe homosexuelle blanche et la classe noire. Et le président Mbeki, qui est entouré d'un certain nombre de gourous scientifiques, estime que le HIV ne cause pas le sida. Il y a tout un débat révisionniste. Malheureusement, les morts dans le monde sont là pour le montant de son frère. Ce qui fait qu'il refuse de lancer l'accès au traitement. Donc la plainte de la... Ce qui est terrible, c'est que la plainte de l'industrie pharmaceutique, si elle a donné raison aux activistes de la lutte contre le sida, c'est pas l'État africain qui a défendu sa loi, c'est la société civile qui l'a défendue dans ce procès. Ce qui est quand même extrêmement dingue. Et par ailleurs, dès que la sentence a été donnée, donc a validé la loi et la plainte s'est terminée, enfin ils ont retiré leur plainte, de toute façon, lui, je vais dire qu'il ne verrait pas encore. MBK, je dis juste derrière, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas donner de médicaments anti-VIH à la population. Donc aujourd'hui, il y a des industriels sud-africains qui se demandent s'ils ne vont pas aller à l'encontre de la position publique du ministère de la Santé et du président de la République pour emporter des médicaments ou les distribuer, parce que par ailleurs, ils souhaitent le faire. L'autre problème, c'est qu'en même temps...
Concrètement,
il n'y a toujours rien, hormis ce qui est emporté. Alors, ça fait TAC, donc Treatment Action Campaign, qui est un groupe d'activistes d'Afrique du Sud. Premièrement, ils importent des médicaments génériques de manière illégale. Deuxièmement, ils ont poursuivi en justice l'État sud-africain pour, je dirais, non assistance et personne en danger, mais je ne connais pas le chef d'inculpation au niveau du droit sud-africain. En ce qui concerne la transmission interno-fétale.
Auprès de qui ? Ils ont porté plainte.
Contre la cour, je ne sais pas si c'est une cour suprême, mais.
Tribunal administratif,
parce que c'est comme s'ils avaient porté plainte devant le Conseil d'État en France. Donc là, ils poursuivent l'État sud-africain sur la question de la transmission interno-fétale. Ce qu'il faut savoir en Afrique, c'est que le premier mode de transmission, il se fait de la mère à l'enfant, et qu'on a trouvé un moyen très simple d'arrêter vraiment la contamination, c'est donner des traitements à la femme un jour avant son accouchement, un mois après, ainsi qu'à l'enfant, et la femme évidemment reste séropositive, mais l'enfant, dans la plupart des cas, n'est plus contaminé, puisqu'on fait baisser la contamination à moins de 0,5%. C'est comme ça qu'en France, il n'y a plus d'enfants séropositifs aujourd'hui. Hein. Et la néphirapine, ça ne coûte pas cher du tout. Et par exemple, la néphirapine qui est faite par Merck a des gros problèmes d'argent, Merck est prêt à vendre n'importe où sa néphirapine s'il peut remonter. Ses chiffres d'affaires, ce qui fait que Merck est prêt à offrir, comme ils l'ont fait au Botswana, de la névirapine gratuitement ou à moitié prix ou tout ça. Mbeki a refusé. Et actuellement, il y a à peu près en Afrique du Sud, je pense qu'il y a, je ne sais plus les chiffres, mais ça se compte en dizaines de milliers de personnes, de femmes qui ont amené leur enfant chacun en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, ils sont plein de droits. Vous voyez ce qui est terrible, c'est que les plaintes, la position d'Mbeki, elle est aussi entretenue par l'industrie pharmaceutique. Et c'est là où on est vraiment dans un truc de dingue, c'est que l'industrie pharmaceutique, elle était prête à financer des congrès qui remettaient en cause ça, alors qu'ils remettaient en cause aussi l'entraînement. Donc c'est un peu la situation désespérée, et voilà quoi.
Je me demandais si j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un deal, donc un retrait de la plainte. Un engagement du gouvernement sud-africain de ne pas...
Non, le retrait de la plainte, c'était sans deal, en fait. Pour la première fois, l'industrie a retiré sa plainte parce que son image, mais il faut aussi voir... faut voir quand même que la France, enfin, le président de la République, tout le staff français, anglais, allemand, enfin, tous les acheteurs d'informatique ont dit des choses contraires. Donc là, il y avait un enjeu complètement dingue. Il faut aussi savoir qu'en pharmaceutique, elle remettait en jeu les prix qu'elle pratique à l'OMS quand elle force ses molécules, et qu'il n'y a aucun moyen de faire du compromis. C'est aussi un moyen de faire du compromis parce qu'il commence à perdre de l'argent, et c'est vrai qu'on est des petits réseaux d'activistes, mais quand vous saccagez les standards de labo pendant une semaine devant CNN tous les jours, je peux vous assurer que c'est comme ça qu'on a la vie. À Durban, c'est ce qu'on a fait. On a occupé tous les centres devant Siemens qui faisaient ses directs là-dessus. Donc c'est des trucs tout cons. Et par ailleurs, le pharmaceutique, c'est l'Afrique du Sud est un pays très riche par rapport au reste des pays africains. Donc c'est un pays qui, dans 10 ans, sera un pays, si il n'arrive pas à des gravités économiques, va acheter du médicament, va en produire et va en vendre. Donc l'industrie pharmaceutique ne peut pas non plus politiquement se plier à ce marché-là.
Et puis de toute façon, il connaissait la position du président.
Tout à fait.
Oui, oui, c'est ça. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de risque que ça soit vendu véritablement, enfin, que ça soit commercialisé d'une
manière. Mais à cause des brevets et la manière dont l'OMC entend l'accord ATIPIC, un industriel sud-africain qui aujourd'hui voudrait faire des implantations parallèles ou avoir une licence ne pourrait peut-être pas l'avoir, alors qu'également il y a droit. Donc c'est ça aussi le problème, c'est que d'un côté on a un État Mbeki qui est un négationniste, on a l'industrie pharmaceutique toute puissante qui, même si elle fait plainte, a quand même une pression très forte sur l'État, et les industriels sud-africains qui se demandent comment ils font pour amener les médicaments jusqu'à chez eux.
Sans compter que par rapport aux chiffres que vous hésitiez, en Afrique c'est 28 millions de personnes d'internet, c'est-à-dire qu'il y a un marché.
Ah oui, ça y a un marché.
36 millions dans le monde,
mais à condition qu'ils puissent acheter.
Oui, mais oui. Je pense que l'industrie pharmaceutique, après ce que tu dis, s'est rendu compte que de toute façon, on préférait laisser crever plutôt que de payer.
Je crois que la crainte générale est qui est en fait qu'en baissant des prix dans des pays d'Afrique, on remet en cause d'une part la logique du prix du médicament et on remet en cause la logique du brevet. Et c'est ça le problème, et ils le disent aujourd'hui. Leur crainte aujourd'hui, c'est ce que nous a dit Jean Glaxo, que j'avais rencontré il n'y a pas longtemps. Ils nous ont dit humainement, on est obligé d'accepter vos revendications sur l'Afrique, mais ce qu'on craint, c'est que vous ayez les mêmes dans 10 ans sur la France, pas sur l'Europe. Et par exemple, dans le terme du sida, on sait bien que dans 10 ans, on aura de nouvelles molécules qui vont être développées, notamment il y en a une de T20 chez Roche, qui va être développée. Et Roche, ce qu'ils craignent, c'est qu'à un moment, on ait les mêmes même exigences de prix et de brevets sur leurs nouvelles molécules. Donc, ils essaient d'accepter un peu le compromis en baissant leur prix sans aller trop loin pour ne pas remettre en cause le fonctionnement même de leur système. Parce qu'il faut être clair, sur le VIH, il y a des activistes. Donc on le fait, mais on ne parle pas du cancer, de la tuberculose et tout ça, qui sont des pathologies qui touchent énormément les pays du Sud, où là, il ne se fait rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. S'il le baisse pour une raison d'image sur le VIH, il ne le baisse pas pour d'autres pathologies. Donc... ce combat-là devrait amener une réforme des brevets et de la propriété intellectuelle et tout ça. C'est pour ça qu'à Doha, il y avait quand même des enjeux importants sur le médicament. Mais en même temps, nous, on n'est plus dans le temps de la négociation et de l'élaboration juridique. On est dans un temps d'urgence. Donc on peut, il y a un moment aussi, on ne peut plus faire du compromis. Ce n'est pas pour rien qu'on avait demandé l'abolition des brevets et qu'on le demande toujours. On n'est pas dans ce temps où on peut négocier sur 15-20 ans. Déjà, je trouve que sur le logiciel, le temps est très rapide, mais il y a quand même un peu plus de temps pour agir. Là, c'est l'urgence. Et c'est l'urgence au jour le jour.
À la suite de l'article qu'il y avait dans le texte, je voudrais juste que tu éclaires un peu les populations qui ont été brevetées, les Indiens,
à son aspect piratage des brevetage des gènes ouais. Des gènes humains, oui, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé là. Il y a eu un certain nombre de cas assez exemplaires. Ça a commencé par un citoyen anglais ou américain, Moore, qui se trouvait être hospitalisé pour un cancer, et on s'est aperçu qu'il avait un gène particulier au niveau de la RAP qui pouvait...
Le gène est dans toutes les cellules de son ADN. Mais il se trouvait que son cancer en fait se développait pas, il faisait pas de métastase.
Il y avait un
blocage. Et donc en fait l'université lui a fait un prélèvement de sang, lui a fait signer un papier, comme on fait toujours, hein, bien sûr, c'est pas donné. Et bon, bien sûr, il transférait tous ses droits de propriété intellectuelle sur son sang. Bon, l'entreprise a déposé un brevet sur le gène, elle a rendu le brevet à une entreprise. Le montant, la limite, encore une fois, n'importe pas. Il ne faut pas avoir l'opposition, ça a été vendu cher, à mon avis. Et alors, mais ce monsieur Moore, Patrick, bon, je confonds toujours avec eux.
Moi, je connais bien, et donc,
il a porté plainte contre l'université. Et en fait, il a perdu jusqu'au bout, jusqu'en Cour suprême, parce qu'on lui a dit, mais non, vous n'aviez pas de droit. Alors, c'est vrai que là, ça peut être intéressant que j'y reviens un tout petit peu. Dans la directive européenne sur les brevets sur le vivant, il est marqué « Les éléments du corps humain ne sont pas appropriables. » Les sanglots longs. Et ça, c'est le premier alinéa. Le deuxième alinéa, c'est « Les éléments du corps humain, s'ils résultent d'une transformation, sont appropriables. » Alors, ce qui est étrange, c'est que nos intellectuels français, jusqu'au ministre de la Justice, Madame Le Branchu, ont dit « Il y a contradiction. » Pas contradiction. Je vous ai dit tous les mots de la phrase. À mon avis, ils n'avaient pas tout lu, ou je ne sais pas quoi, ou ils ne connaissent pas bien les termes. Ils ne savent peut-être pas bien lire le français non plus. Et donc, ils ont regardé ça, ils ont trouvé qu'il y avait contradiction. Il n'y en a pas, parce qu'il faut qu'il y ait transformation. Un exemple concret, qui est issu du Conseil d'État, eux, ils ont compris ce que c'était. Mon sang à moi n'est pas brevetable. D'accord. Mais pour autant, si mon sang résulte d'une transformation, par exemple une prise de sang, il devient brevetable. Mais dans le même temps, c'est plus mon sang. Ce qui fait qu'on peut dire les éléments du corps humain ne sont pas brevetables. Il y a plein de gens bien pensants qui vont dire « Ah, c'est bien, on défend. » De même que dans le projet de loi actuel, il est marqué « Les espèces végétales et animales ne sont pas brevetables. » On s'en fout, on peut déposer un brevet sur bien plus large qu'une espèce. Si on dépose un brevet sur un gène qui appartient à plusieurs espèces, dans les faits, on peut contrôler toutes ces espèces. Vous voyez, c'est comme le goût de la matière vivante. Le vivant n'est pas brevetable. Un problème, on parle de la matière vivante. Si jamais certains bien-pensants disent « Ah oui, mais il faut protéger la recherche. » Pas de problème, on fait ce qu'on appelle une exemption de recherche. Moi, j'appelle ça un privilège du chercheur, ou je pourrais vous dire éventuellement un peu pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'une exemption de recherche? C'est-à-dire que si jamais... Si ma voisine avait un brevet sur un gène, ça n'empêche pas moi de faire de la recherche sur ce gène. Et donc là, toutes les personnes qui disent, comme c'est un additif au système du brevet, qui ne va pas freiner la recherche. C'est vrai à un temps et c'est faux à deux temps. Pourquoi ? Si jamais moi je trouve quelque chose, un médicament, n'importe quoi, qui pourrait être utile, eh ben je devrais en passer cette fois sous les fourches codines de ma voisine. Pour elle, ça va, mais... Pour les sociétés pharmaceutiques, j'ai moins. Et donc, dans les faits, cette exemption de recherche, c'est juste qu'on maintient en observation la recherche publique pour pouvoir la piller quand on veut. Ça ne me semble pas hyper moral. Autre exemple, ce qu'on appelle le privilège de l'agriculteur. Le privilège de l'agriculteur, c'est le droit pour l'agriculteur de ressemer le grain récolté. C'est un truc qui date du néolithique. Mais ce qui est intéressant intellectuellement parlant, c'est qu'on crée un privilège. On dit au péquenaud, tiens, on est généreux, bon prince, on te laisse ce privilège. Ce qui est une façon à moyen terme de le lyncher. Hein. Le privilège, c'est vrai que ça fait pas bonne presse. Pour le chercheur, on ne parle pas du privilège de la recherche, hein, d'ailleurs. Et donc, le paysan, on lui laisse un droit qu'il a toujours eu et qui appartient à nous. Et que les États sont en train, dans les faits, de nous prendre. C'est pour ça que la lutte contre les brevets sur le vivant ou aussi les OGM, c'est pas qu'une lutte de paysans, c'est pas une lutte catégorielle ou des trucs comme ça. C'est quel est le statut du vivant. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir une réflexion beaucoup plus philosophique, y compris au statut de la recherche, de la science. Parce que Descartes l'avait déjà dit, le but de la science, c'est se rendre comme maître et possesseur de la nature. Comme maître de la nature, c'est la transgénèse. On prend un gène dans le poisson, on le met dans la tomate. Comme possesseur, c'est les brevets. On est en train de boucler la boucle. Voilà, l'industrie se sera emparée de tout, y compris le vivant. À mon avis, il faut attaquer au cœur de l'industrie.
Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Moore, c'est que quand il a attaqué pour dire bon bah écoutez, s'ils se font, ils ont déposé un brevet sur mon gène, celui-là il m'appartient, on l'a pris à l'intérieur. Moi je veux bien faire de l'argent aussi. On m'a dit non, on m'a dit vous n'avez à la limite aucune propriété sur ce gène. La seule erreur commise, c'est qu'on ne vous a pas dit qu'il y aurait des usages commerciaux sur ce gène. C'est tout. Donc éventuellement, vous pourriez demander des dommages et intérêts parce que vous n'avez pas été prévenu. Et on ne va rien accorder sur la propriété éventuelle du gène et sur les bénéfices ultérieurs. Il y a eu d'autres exemples sur les populations indigènes. Donc il y a des prospecteurs qui parcourent la planète, qui travaillent pour les laboratoires, enfin la poignée de 10 multinationales qui tient l'ensemble de ce secteur, et qui récupèrent aussi bien des espèces comme tout à l'heure sur du riz basmati ou certaines variétés de haricots ou de maïs qui est limite en voie de disparition, etc. Et ça va alimenter les banques de germes mondiales qui font ensuite du commerce avec les industriels. Mais ils vont également dénicher des petites populations indigènes qui vivent en milieu fermé. Alors on a eu le cas de l'Islande, là c'est le pays qui a décidé de passer un contrat et de monnayer le génome de sa population. Mais il y a d'autres cas où personne n'a été prévenu, les prélèvements sont faits couverts d'études épidémiologiques diverses. Les brevets sont déposés sans que quiconque soit prévenu. Il n'y a pas le minimum exigible qui serait ce qui avait été traduit dans la directive par le consentement éclairé de la personne, c'est-à-dire la personne est informée de ce qu'on va faire de son sang, de ses gènes, et il dit oui ou non. Et il y a des populations qui se sont donc aperçues que c'était même l'Institut national de recherche sur le cancer américain, et non, même pas une société privée, qui avait déposé les gènes d'une indienne Guarani, les gènes d'un autre habitant du. Les îles Tonga, il y a eu Costa Rica, enfin, mais bon. Je crois qu'il y a des sociétés européennes et peut-être même françaises qui prospectent très activement dans les petites populations villageoises chinoises, qui vivent aussi énormément en milieu fermé, parce que ces populations-là ont en général des gènes particuliers, sont atteintes systématiquement d'asthme, donc on se dit qu'en récupérant ce gène, on va peut-être trouver un remède. Et ça intéresse en général systématiquement des maladies de sociétés, de civilisations, de pays développés, où il y a des marchés faramineux à la clé derrière. Alors dans le cas de ces dépôts de gènes de personnes indigènes, il y a eu des campagnes d'information et ça a fait scandale. Donc il y a des ONG qui se sont associées aux populations ou aux pays pour faire casser le brevet, et quasiment systématiquement ce type de brevets ont été supprimés.
Ceci dit, systématiquement sur ceux pour lesquels il y a eu des militants qui ont bien vu sur le procès. C'est toujours pareil, le brevet d'une certaine façon là encore, il retourne la charge de la preuve. Ouais. Et il ne faudrait pas non plus que ces combats, comme tu dis, légitiment le principe des brevets modulo des garde-fous. Non, c'est zéro brevet. Sachant qu'il y a plein d'autres solutions, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des solutions de type droit d'auteur qui, pour les plantes, les certificats d'obtention végétale, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement du droit d'auteur. C'est pas parfait, il y a plein de critiques. Mais ça, au moins, c'est une base de discussion. Les brevets, c'est niet.
Et surtout, le problème du brevet, c'est que pour des gens comme nous qui vont lutter contre, il faut agir contre quand même. C'est-à-dire que quand on n'a pas le combat, les moyens ou l'information, le brevet est légitimé. C'est-à-dire que le principe du brevet est légitime. C'est ça l'inversion qui s'est faite. Et sur plein de choses, c'est qu'aujourd'hui, le brevet, c'est la légitimité. Les gens qui luttent, c'est une exception, en fait. Donc c'est en fait eux qui ont c'est eux qui sont de bonne foi et c'est nous qui sommes les gens légitimes.
Mais la personne qui a fait le retournement de la charge de la foi, là, c'est l'État.
Exactement.
Comme tu l'as très justement rappelé, un brevet, c'est quand même, étymologiquement parlant, une lettre de patente du pouvoir régalien. Et ça ne change rien entre l'ancien régime
et. Et juste un truc que je voulais dire sur l'innovation, puisqu'on disait que le vrai contexte d'innovation, enfin, la permet et tout. Il y a une histoire assez drôle sur la BDI en Thaïlande, c'est que c'est un labo qui n'a pas obtenu sa licence obligatoire pour distribuer la DDI générique, qui est donc faite par BMS. Et puis, pour je ne sais quelle raison, parce que BMS avait mal déposé son brevet en Thaïlande, elle l'a déposé pour la formule sous cachet, sous gélule, et pas sous une formule sous poudre différente, le labo en fait produit la molécule sous une formule où le brevet n'en fait pas. Et en fait, en testant la qualité de cette molécule, on s'est rendu compte qu'elle était plus biodisponible que la molécule qui est vendue dans le monde. C'est ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, le labo a mis au point un médicament générique plus efficace que le médicament général. Et c'est aussi ce qui est en train de se passer apparemment pour une antiprotéase, pas des molécules vachement mieux, qui sont très compliqués à fabriquer, le Brésil va en fabriquer, et le fait que c'est très compliqué, ils ont mis en cause plein de choses sur les molécules, et apparemment ils sont en train de produire quelque chose de 100 fois moins cher et plus efficace. Ce qui est aussi problématique, parce que par exemple BMS pour la DDI a maintenant envie de racheter le générique, parce que il est plus efficace, parce qu'il est... L'intérêt pour eux, ça serait de racheter le générique pour le vendre en et déposer un brevet et mille euros.
D'ailleurs, il y a un truc que, quand on parle d'innovation, on pense quelque chose dans lequel je m'engage, et c'est plus vrai dans le domaine des logiciels, c'est que la plupart des gens qui sont pour le brevet logiciel, il y a à peu près 2 ans quand le débat a commencé à avoir sur le test public, bien souvent, notamment de Pierre Grézé, il arrivait souvent avec 2 ou 3 personnes de boîtes françaises. Et il expliquait en fait que les brevets logiciels seraient favorables à ces gens-là, parce qu'en fait, dans le domaine économique, souvent, le calcul de l'innovation se fait sur le nombre de dépôts de brevets qu'a une société. Et ce qui est très marrant, en fait, c'est que aujourd'hui, toutes ces sociétés-là ont disparu. C'est-à-dire que les brevets ne sont pas du tout protégés. Et aujourd'hui, ils sont tout à fait à court d'arguments. Et sur la retournement à charge de la porte, on a même le cas dans le cas du brevet logiciel, où finalement, les seuls gens qui s'activent de façon très, très importante sur les banques logicielles, alors qu'en fait, tout a été fait pour démontrer que tout le monde est en jeu de logiciels, y compris les PME, PMI. Et donc, en fait, ça donne argument aux gens qui sont pour les brevets logiciels en train de regarder. Les seuls, finalement, qui sont contre, sont les gens de logiciels. C'est-à-dire une petite casse, effectivement, d'informaticien qui a un propre problème, parce que, finalement, si nous, on viole un brevet logiciel, ça le verra tout de suite, parce que c'est transparence totale. Et donc, on a changé un point en disant, regardez, les seuls qui s'expriment sont contre les brevets logiciels. Et à tel point que, quand la Commission européenne a ouvert, contraint et forcé une consultation publique, ils ont reçu 80% de réponses qui venaient de chez nous. Et donc ils ont conclu, en fait, oui, vous voyez, l'étude, elle ne peut pas être vraiment correcte, parce qu'en fait, il y a des gens du logiciel libre qui, effectivement, ont répondu. On leur a dit, oui, c'est clair, c'est parce que nous étions les seuls à être au courant, les PME, PMI européennes n'ont pas été contactées, donc nous, on a effectivement répondu. Donc ils ont à nouveau inversé la charge de la preuve. Et ça, c'est quelque chose qui est très vicieux, sur lequel on se bat régulièrement, justement, dans notre domaine. C'est pour ça qu'effectivement, nous, on essaie de convaincre des entreprises qui font du propriétaire, bien senti, etc., donc ils sont vraiment d'un autre côté du logiciel que nous, de nous soutenir. C'est très marrant, en fait, c'est que en privé, ces gens-là nous soutiennent. Et j'ai des exemples de grosses sociétés, comme par exemple la grosse société informatique française, qui officieusement nous soutient en privé. Et quand on leur demande d'avoir une position officielle, ne serait-ce que par une interview dans la presse, à ce moment-là, ce qui est marrant, c'est qu'on nous dit non. Et pourquoi on nous dit non? Tout simplement parce que ces sociétés-là, ces six partenaires mondiaux, il y a Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, HP. Et le sixième, c'est je sais plus quoi. C'est parmi les plus gros détenteurs de brevets dans le monde.
Mais IBM est en train de changer de fusil d'épaule et devient le logiciel libre.
Alors attention, logiciel libre et brevet logiciel, c'est totalement différent. On peut être supporter de logiciel libre et déposer tel brevet.
Non, il a lancé un appel en 15 octobre, un appel international sur 50 universités internationales, 75 000 chercheurs. La voie de la recherche en informatique, c'est les standards ouverts et les logiciels libres.
Ça ne les empêche pas d'être le premier détenteur de brevets et d'utiliser quand il faut.
Tout à fait, mais c'est déjà, ouais. quand un gros comme ça, bon, ils veulent entuber Microsoft, et c'est la seule manière d'entuber Microsoft, mais...
Non, c'est pas la seule.
Bon, il y en a d'autres, effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que quand un gros industriel met des milliards, enfin, c'est la première fois qu'ils font un budget de recherche aussi important, et qu'ils contactent des gens dans le monde entier, et qu'ils vont financer des recherches universitaires sur un projet qu'ils appellent l'autonomie computing.
Bon. Oui, mais alors l'explication est très claire, en fait, et effectivement, c'est pour niquer Microsoft, mais pas tellement sur le problème du logiciel libre. C'est pas sur le logiciel libre qu'ils soutiennent, c'est sur le système, c'est sur le noyau Linux. Leur but à IBM, en fait, c'est d'avoir un seul noyau sur toutes les gammes de machines qu'ils ont, parce qu'IBM sont les seuls à avoir du PC jusqu'aux Z-Series, c'est-à-dire les grosses machines au monde, quasiment. Ils ont toute la gamme. Et ce qu'ils veulent, en fait, en soutenant exclusivement le noyau Linux, exclusivement, et pas du tout les autres logiciels libres, c'est d'avoir en fait sur toute leur plateforme le même noyau, donc quelque chose effectivement qui en plus parce qu'ils vont investir dedans, ils vont contrôler, de manière en fait à avoir le même noyau, et en fait d'avoir des coûts de portage de leur software sur toutes les plateformes qui sont quasiment ridicules. Effectivement, ça c'est un moyen de faire chier Microsoft, mais ça n'a rien à voir du tout avec un soutien quelconque par rapport au brevet logiciel, ça ne les empêchera pas de continuer. Leur stratégie, c'est simplement d'avoir un noyau sur une telle gamme de produits qui sont les seuls à avoir. Ils vont contrôler à la fois le logiciel et à la fois le hardware. Donc effectivement, ils vont redevenir les fameux Big Blue qu'il y avait il y a 25 ans. Mais au niveau des brevets logiciels, ça ne changera rien. Par contre, il y a un truc que je voulais dire, c'est que là, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de brevets. Mais quand tout à l'heure, au départ, j'ai parlé de propriété intellectuelle et j'ai dit qu'il fallait éviter ce terme, ou en tout cas préciser que c'était un faux. Il faut bien voir que la propriété intellectuelle chie à fond dans tous les domaines en ce moment et de plus en plus. Il n'y a pas simplement les brevets. Il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, un développeur russe qui a effectivement écrit un petit code qui permet de décrypter les, je crois que c'est des e-books, enfin, les livres électroniques d'Adobe, ce qui est parfaitement légal aux États-Unis pour son usage personnel, en Russie, ouais, c'est parfaitement légal en Russie, donc il l'a fait en Russie, c'est parfaitement légal, simplement pour son usage personnel. Il a fait une conférence aux États-Unis, ben, il n'est pas parti des États-Unis. Il est resté 2 mois en tôle, là il vient juste d'en sortir, parce que finalement, avec la pression, les Américains l'ont laissé sortir. Mais ça, c'est pas du tout du brevet. Là, c'est l'extension de droits d'auteur.
C'est sa société qui a endossé le...
Oui, c'est sa société qui a endossé. Et actuellement, en Europe, nous avons des extensions de ce qu'ils appellent Digital Millennium Copyright Act, donc le DMCA aux États-Unis, qui sont en train d'être discutées et même votées pour certains grands pans. Donc, il faut bien comprendre que le brevet, effectivement, vous êtes totalement pour... Moi aussi, dans le domaine du logiciel, très clairement, mais ça n'empêche pas que... Il ne faut pas oublier que dans le domaine de la propriété intellectuelle, en global, ça merde. Je vous prends un dernier exemple totalement ridicule. En informatique, principalement les gens qui font du Nice ont une tradition, c'est souvent que le suffixe de leur nom de programme soit X. Il y a Unix, il y a Linux, etc. Et il y a quelqu'un en Allemagne qui a un site web qui parle des mobiles sous une exploitation libre. Il l'appelle MobileX. Bon, pas mal, MobileX. Mais il s'est fait attaquer. Et il s'est fait attaquer par qui ? Mais c'est attaqué par les éditions Uderzo, qui ont considéré l'utilisation du terme Obélix rentrer en concurrence avec Obélix. Et ils se sont fait attaquer. Et actuellement, il y a actuellement une négociation avant le procès en cours. Autre exemple, de la même façon, en Allemagne, un éditeur qui fait des logiciels libres, donc dont le but simplement de prendre des logiciels libres, il y a à peu près 500-600 logiciels libres, de les mettre sur un CD et de vendre le CD. C'est fait attaquer. Parce que l'un des logiciels qui était dessus, dont il n'est pas l'auteur, s'appelle Crayon avec un K. C'est un truc qui permet de faire des dessins. Mais il s'est fait attaquer par quelqu'un qui, en Allemagne, détient le mot Crayon avec un C. Et actuellement, le juge, en première instance, a interdit à cette boîte de continuer à vendre ses CD. Autrement dit, un juge vient de condamner quasiment à la fin cette boîte s'il n'arrive pas à un accord sur un prince complètement futile. Et là, c'est le droit des marques, c'est plus le droit des marques. On ne peut pas oublier que dans la merde ambiante du brevet, en fait, c'est toute la propriété intellectuelle. Et en fait, c'est normal, parce que qu'est-ce qui va aujourd'hui permettre, enfin, de faire un acte de thune ou de...
C'est un système de raquette.
Voilà, c'est un système de raquette dans le nouveau siècle. Qu'est-ce qu'est le contrôle? Le contrôle, c'est l'information. Et comment on contrôle l'information? On contrôle de deux façons. On contrôle de façon technique. Si par exemple, vous voulez empêcher les copies privées, effectivement, vous pouvez mettre en place un système technique qui, techniquement, empêche à quelqu'un qui a, par exemple, acheté un CD-ROM de Gravab de l'utiliser pour copier des données personnelles. Sauf que tout ce qui a été fait par un informaticien va être détruit par un informaticien un jour ou l'autre, dans un mois, dans 2 mois. Donc, à côté de ces outils techniques qu'on met en place, on met bien sûr un outil juridique qui interdit de casser ce genre de système, même pour des usages privés. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, à la fois il y a la technique et les aspects juridiques qui font de forme pour finalement, en fait, englober le système et le rendre captif.
Autre exemple, enfin, tu seras peut-être le dernier, c'est... Il y a un mec qui a déposé un brevet sur un engin roue permettant le transport. Une roue. Bon, c'était une caricature, mais c'est un brevet qui a été accepté.
Il y a une série de brevets. Alors, toi, tu disais le brevet WebClick, il ne tiendra pas la route, il finira par être cassé. Les brevets sur des gènes de personnes. On arrive à les faire casser. Les brevets qui ont été déposés sur certains OGM, vraiment ultra génériques, du genre le principe d'introduction d'un gène étranger dans toutes les espèces de soja. Ça ne peut pas tenir la route. Alors comment se fait-il que les offices de brevets prennent des livres des brevets de ce genre si on sait qu'ils vont être systématiquement cassés par ailleurs, si ce n'est pour alimenter une espèce de système de raquette mais qui marche avec la complicité des cabinets juridiques spécialisés, des cabinets d'experts en propriété intellectuelle, des offices de brevets qui sont des organismes privés et des multinationales qui sont leurs clients et la boucle
est bouclée. La réponse est un peu double là parce que d'abord les systèmes d'examen ne sont pas du tout les mêmes entre en France et aux États-Unis. En France ils sont en fait beaucoup plus légers. Ce qui est un inconvénient en fait parce que ça veut dire que s'il y a un brevet en France, il n'y a vraiment aucune garantie du gouvernement. Alors qu'aux États-Unis un brevet est plus examiné. Cela dit, sur les exemples que tu disais, quand tu dis on sait que ça sera cassé. Bon, je reviens en fait à ce qu'on disait. On sait, on le saura au bout de N procédures. Et donc concrètement, c'est le gros qui en a pas mis le petit.
Et on fait qu'il est cassé s'il est attaqué.
Et s'il accepte de payer, de...
Voilà.
Donc, de toute façon, c'est un système qui encourage le gros. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, au 18e siècle, la motivation du droit des brevets, c'était de protéger le petit par rapport au gros. Enfin, du droit, pardon, pas du brevet, du droit d'auteur.
Ce qui a été mis en cause historiquement, c'est justement parce qu'il profitait trop au gros monopole, aux familles royales, aux manufactures, etc., pour réajuster, le rééquilibrer et le remettre pour protéger le droit d'exploitation du petit inventeur, du moyen inventeur. Donc là, il semblerait qu'on arrive à un stade où il faudrait que le système soit totalement remis à plat.
Ouais, soit bon programme.
Pour, voilà.
Sur ce, on arrive à des absurdités. Enfin, j'en ai plus du tout entendu parler, mais c'est il y a un an et demi où British Telecom annonçait la face du monde qui détenait les brevets sur l'hypertexte.
Le lien hypertexte, ouais.
Donc en gros, tous les sites auraient à lui reverser une redevance. Bon, évidemment, tout le monde s'est marré, mais il n'y a plus de nouvelles.
On attend le pied ferme.
On va peut-être libérer la salle pour la session suivante.
Merci.
Merci.